BFM Bourse, on refait la séance.
Et si vous avez raté la demi-heure qui précède, quand même, Laurent Clavel pour AXA IM nous parlait d'une hypothèse de hausse de taux de la Fed. Oui, on n'entend parler que de baisse de taux depuis quelques semaines, mais l'hypothèse d'une hausse de taux revient un peu dans le marché. Pas beaucoup, mais quand même à hauteur de 33%. C'est pas rien, 33%, et ça monte, ça monte. Il faudra suivre ça et nous en parler dans la data room. Si vous avez raté le direct, le replay est à suivre, bfmbourse.com ou encore sur notre application BFM Business. Quel potentiel pour la suite? Quelle valeur privilégiée dans vos portefeuilles? Julien Kistrebert est avec nous. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Gérant pour Taylor AM. Bruno Cus également pour la lettre de la Bourse. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Guillaume.
Ravi messieurs de vous retrouver. Est-ce qu'on est rassuré globalement? D'abord un regard global sur les publications. Est-ce qu'on est rassuré? Est-ce qu'on est positivement surpris? Ou au contraire, on sent un ralentissement de plus en plus marqué du côté des entreprises pour cette saison de publication? Bruno.
Je trouve qu'il n'y a pas eu d'énormes surprises. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une base de comparaison qui était élevée, presque dans tous les secteurs. Et ça, on s'attendait à ce que les croissances de chiffre d'affaires soient beaucoup moins fortes en ce début d'année. Donc c'est ce qui est ressorti dans le luxe, dans l'industrie, dans les semi-conducteurs. On a vu ça, c'était un point commun presque à tous les secteurs. On a vu aussi qu'il subsistait quand même des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement dans certains secteurs, par exemple comme l'aéronautique. Il reste aussi des stocks dans les semi-conducteurs, dans les spiritueux. Donc tout ça fait que la base de comparaison était assez forte l'année dernière et on se retrouve avec des chiffres un peu moyens en ce début d'année. Mais la plupart des équipes dirigeantes s'attendent quand même à un rebond sur le deuxième semestre. On voit que quand il y a des publications, des chiffres d'affaires décevants au premier trimestre, on nous dit à chaque fois ça devrait aller mieux, en tout cas sur la deuxième partie de l'année. Et donc beaucoup de sociétés maintiennent leur prévision de résultats, ce qui fait que pour l'instant on a un consensus qui évolue assez peu en fait sur l'ordre de croissance bénéficiaire pour cette année. On est à peu près autour de 6% sur les progressions de bénéfices du CAC 40 cette année. Et une valo du CAC qui est assez honnête, à 15 fois les résultats, c'est pas exagéré.
S'il fallait n'en retenir qu'une, une valeur, une publication dont vous vous dites « Celle-ci, cette semaine, franchement, elle a changé ma vision de l'avenir. » En l'occurrence, en tout cas, celle-ci, elle m'a convaincu de l'acheter. Parce que la publication et les perspectives de cette société qui a publié sont très positifs, en tout cas, m'ont agréablement surpris. C'est laquelle? Est-ce qu'il y en a une comme ça qui vous a plus agréablement surpris que les autres? Julien.
En ce qui me concerne, j'ai plutôt été à regarder les sociétés qui avaient fait des bonnes publications et qui avaient quand même corrigé, avec l'idée que, alors, certes, les résultats sont plutôt bons. Alors, toujours la même chose, hein, nettement meilleur de l'autre côté de l'Atlantique par rapport au consensus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez qu'on voit depuis plusieurs trimestres. Je dirais globalement, on a eu des entreprises aussi qui ont bien publié, qui ont quand même corrigé et qui là offrent des points d'entrée qui sont assez intéressants. On parlait du luxe effectivement, où là c'est peut-être le grand écart. Hein. On a LVMH, Hermès, Moncler qui ont plutôt rassuré. Kering, on l'a vu, où là ça a été extrêmement compliqué. Certainement un problème de positionnement de marque, mais pas seulement. On voit qu'il y a des points en tout cas qui sont un peu plus difficiles. Voilà, donc globalement, je dirais que les publications sont solides. Le deuxième trimestre effectivement va être bon. Le deuxième semestre aussi devrait repartir dans une bonne dynamique. Voilà, mais nous plutôt dans l'idée d'aller chercher des dossiers qui ont reculé sur des publications qui étaient solides.
Donc par exemple,
il y a eu quand même des prises de profit. Bah, je sais pas, par exemple
Hermès.
Airbus aussi, ah, qui a reculé. Parce que,
la publication était décevante.
Oui, mais ouais, c'est beaucoup d'exceptionnels, en fait, oui, qui ont pénalisé. Donc là, on a un bon carnet de commandes, la dynamique est solide. Sur ces niveaux-là, ça nous semble être des zones intéressantes. Des Vinci aussi, même si on va en reparler un petit peu après. Voilà, donc il y a des choses, en tout cas, qui ont reculé, qui n'auraient pas dû le faire, certainement, et qui offrent des points de pour se renforcer, en tout cas.
Ce soir, la plus forte hausse du CAC, c'est Saint-Gobain, quand même. Quasiment 7% de hausse pour Saint-Gobain, malgré une activité dans le neuf vraiment... en berne, et pourtant, la publication est largement saluée, jugée rassurante par les investisseurs, notamment le Confco, là, manifestement, avec les analystes de la direction de Saint-Gobain. La tonalité des dirigeants de Saint-Gobain a permis, effectivement, de changer le regard sur cette publication et rendre plus positif. Ce soir, donc, quasiment 7% de hausse Saint-Gobain, Bruno.
Oui, c'est vrai. Comme on l'a dit tout à l'heure, le début d'année est quand même assez poussif. Hein. Pour la première fois, on a un effet prix qui devient négatif. Parce que jusqu'à maintenant, chez Saint-Gobain, on avait des volumes qui commençaient à baisser en fin d'année dernière, avec ses problèmes sur les marchés du bâtiment, du résidentiel neuf. Mais en plus, en ce début d'année, on a un effet prix qui commence à devenir un petit peu négatif. Apparemment, en séquentiel, ça s'améliore quand même par rapport à la tendance à s'améliorer. Donc, la société a plutôt rassuré. Elle a maintenu d'ailleurs ses objectifs. On aura une marge opérationnelle à deux chiffres pour la quatrième année consécutive. C'est quand même pas mal pour un groupe qui était censé être cyclique et qui l'est de moins en moins grâce à ses investissements.
Il faut encore acheter Saint-Gobain.
Nous, on est acheteurs. Encore, on est d'accord. Sur une valo qui n'est pas exigeante.
En Julien, fait. Vous achetez
ouais,
aussi.
Oui, la valorisation est très raisonnable. Et puis, il bénéficie surtout au-delà du... On parle beaucoup du neuf, mais il bénéficie beaucoup de la rénovation. Hein. Là-dessus, sur lequel il y a une dynamique assez forte, l'isolation. On voit que la Commission européenne veut pousser aussi à aller plus loin sur les aides pour la rénovation des bâtiments. Donc, ils sont clairement sur ce méga-trend. Et puis, c'est vrai que les marges, aujourd'hui, sont extrêmement solides.
Vous êtes sur Snap, je crois, Julien et Bruno. Hein. Très présents sur Snap. Chat, on peut vous y retrouver. Non. Ah non, vous n'êtes pas sur Snap, vous.
Non.
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 Bruno.
Non plus.
Oh. Et en termes d'action, en portefeuille boursier, pas sur Snap non plus. Vous n'avez pas ce titre Snap en
non.
portefeuille.
Non.
Non. Vous avez tort. En tout cas, aujourd'hui. C'est pas un titre facile, hein, Snap. Non, mais aujourd'hui, alors là, waouh. Plus 22% Snap aux États-Unis. Le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort largement supérieur aux attentes. Snap, c'est la star du jour sur le marché américain. Snap, plus que Alphabet, dont la publication aussi rayonne. Alphabet gagne 10%, l'annonce d'un premier dividende pour Alphabet, mais Snap fait encore mieux. Et puis Microsoft aussi, très belle publication. L'IA qui rapporte des revenus de plus en plus toujours pour Microsoft. Le titre gagne 2,5%. La tech américaine, on a encore Apple et Amazon à suivre la semaine prochaine, mais voilà, à l'issue de cette semaine. Tout à l'heure, Charles Monod disait... C'est Meta qui m'a le plus impressionné, alors que Meta a été sanctionné par le marché sur sa publication. Mais il nous a dit que le marché était cruel. Meta, ce qui nous annonce le meilleur premier trimestre de l'histoire de Meta, quand même, dans cette publication, c'était très impressionnant. Et c'est cette valeur que j'ai renforcée cette semaine en profitant de la baisse, la sanction par Wall Street de ce titre Meta. C'est le choix que vous faites aussi, ou vous préférez Microsoft, Alphabet, pourquoi pas Snap, Bruno ?
Nous, on a une préférence pour Microsoft, qui est quand même l'associé la plus avancée, la plus aboutie dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein, qui maintenant l'intègre dans toutes ses solutions, ses logiciels. Et ça se traduit vraiment tout de suite concrètement par des chiffres d'affaires et des résultats positifs. On voit que les autres sont un peu en train de courir encore derrière. Ils commencent aussi à avoir des gains, hein, chez Alphabet. Et chez Meta, bon, effectivement, ce qui fait peur, c'est la masse d'investissements. Hein. 45 à 50 milliards d'investissements dans l'IA et dans la réalité virtuelle, ça fait peur. On se demande si ces masses colossales vont se transformer en bénéfices un jour. Donc, pour l'instant, nous, on préfère le dossier le plus sécurisant, c'est Microsoft, même s'il est un petit peu cher.
Alors, voilà.
On a des croissances de bénéfices. Pour l'instant, qui sont là et qui on continue sur un train de croissance à 15% par an. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire.
Grâce au cloud et à l'IA, sauf que... Alors oui, Microsoft progresse de 2,5%. Ok, un point. Marquez un point. Mais que 2,5% de hausse, alors que dans l'IA, c'est un carton, quoi. Les revenus sont de plus en plus élevés. Enfin, on a le sentiment qu'il y a 3, 4, 5, 6 mois, une telle publication a été saluée par une hausse de 8, 9, 10%. Et puis là, l'IA opère. Alors elle opère, mais elle opère un peu moins dans les cours de bourse. Est-ce que l'effet un peu magique de l'IA sur les cours de bourse est en train de s'estomper, Julien ?
Tout est relatif, mais non. Évidemment, le cours de bourse a bien monté ces derniers temps, donc c'est vrai que le marché fait peut-être une petite pause, mais c'est vrai que c'est surtout sur la publication d'Azure, hein, parce que c'est vrai que sur la partie cloud, le marché a pu sanctionner Microsoft par le passé en disant il y a un ralentissement sur la partie cloud. On voit que c'est pas le cas, hein, que la croissance continue d'être très très forte, hein, plus de 30%. Donc ça, c'est évidemment une bonne chose. Alors c'est vrai que d'aller chercher du méta, c'est chercher plus de volatilité, donc avec des performances qui peuvent être plus en tout cas sportive, mais aussi des séances plus compliquées. On parle pas de Snap, alors là c'est encore un autre sujet.
Meta ceinture, hein, c'est ce que disent les investisseurs.
On peut le dire,
s'accrocher sa ceinture là.
Mais oui. Alphabet, par contre, je trouve que ça c'est assez intéressant. La publication est très bonne. On voit que l'outil Gemini aussi est assez performant et qu'il a d'autres avantages par rapport à ChatGPT. Alphabet est certainement en tout cas un outil, un véhicule toujours intéressant.
Ils ne sont pas condamnés à rester en retard en permanence et éternellement sur Microsoft. C'est ce qu'on se dit à l'issue de cette publication. Peut-être.
Exactement.
Ouais. Plus 10%. Exactement. Et en plus, l'annonce d'un premier dividende et de rachat d'actions Alphabet, donc plus 10 ce soir. Messieurs, on vous rappelle la clôture, et messieurs, dames, qui nous écoutez aussi en direct sur BFM Business, la clôture en hausse, la clôture hebdomadaire. D'abord, sur la semaine, le CAC 40 progresse et il gagne sur la séance du jour 0,9% à 8088 points. Mais la grande actualité du jour, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui, en répondant à une question d'un journaliste, a annoncé que le titre Total Energy pourrait finalement muter, déménager à Wall Street. En tout cas, une cotation principale peut-être un jour à Wall Street pour Total Energy. plutôt qu'à Paris? C'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur le fil X BFM Bourse et le fil LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner, vous tous. À vos yeux, est-ce que oui, Total Energy aurait intérêt à quitter la Bourse de Paris? Vous êtes quand même 32% à voter oui. Ah, Julien, vous diriez oui aussi? Enfin, Wall Street, c'est mieux que Paris pour un groupe comme Total Energy, en l'occurrence?
Ah, c'est mieux, ne serait-ce que, enfin, de leur point de vue, hein, le sujet ESG est assez prégnant chez les investisseurs européens. Donc forcément, beaucoup d'investisseurs européens ont plutôt tendance à délaisser ce secteur. On l'a vu aussi avec le label ISR, hein, où il faut sortir tout ce qui est énergie fossile. Donc il y a plutôt une tendance à mettre moins de capitaux. Donc oui, ils peuvent le faire s'ils veulent avoir une meilleure valorisation. Après, dans les faits, vu le bilan de la société, à ma connaissance, ils n'ont pas besoin de faire d'augmentation de capital.
Oui, donc, oui, mais leurs pairs, leurs concurrents américains, oui, qui sont industriellement, qui ne sont pas forcément meilleurs, voire qui sont moins bons, oui, boursièrement parlant, ont de meilleures performances parce qu'ils, oui, sont à Wall Street. Chevron, Exxon.
Pas que. Ouais. Il y a aussi l'effet gaz et pétrole américain qui a une base de coûts assez compétitive. L'aspect géopolitique aussi, quand vous avez vos actifs sur cette zone-là, il y a moins de risques, donc vous avez une prime de risque qui est moins élevée aussi. C'est un peu plus complexe que ça. Alors, je comprends l'intérêt pour ceux qui touchent des actions gratuites, hein, notamment les cadres dirigeants, d'avoir une meilleure valorisation. Maintenant, quand vous n'avez pas besoin spécialement de faire appel au marché, je ne pense pas que ce soit indispensable. Mais je peux comprendre la logique.
Bah oui, vouloir se valoriser toujours davantage, attirer l'argent, c'est à Wall Street qu'il est l'argent. En plus, il y a de moins en moins de volume sur les marchés actions en Europe, donc autant aller chercher les volumes là où ils sont, en l'occurrence plus à Wall Street où les Américains pour leur retraite investissent en bourse qu'en Europe. Enfin, on peut comprendre cette logique, même si ce serait quand même, Bruno, une grosse perte pour la Bourse de Paris.
Oui, ce serait une perte, mais enfin, quand on voit le traitement boursier de Total aujourd'hui, c'est pas cher payé, hein. On se paye des ratios. Quand on voit ce que se paye Exxon et Chevron, par exemple, c'est 13 fois les bénéfices. Total, c'est 6 ou 7 fois. Donc,
oui, c'est deux fois moins valorisé, en fait.
Voilà, c'est deux fois moins valorisé. Donc, je pense qu'il y a des actionnaires qui doivent gronder aussi. Et l'ESG, c'est vrai que c'est bien, mais il faudra peut-être qu'un jour tenir compte aussi du fait que Total réalise un tiers de ses investissements dans les énergies renouvelables. Hein. C'est pas neutre.
Vous dites que les investisseurs européens sont un peu ingrats vis-à-vis de Total sur transition énergétique. Oui. Patrick Pouyanné expliquait justement tout à l'heure que la part des Européens est en train de baisser au capital de Total Energy. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'ils, oui, réfléchissent, mmh, à aller à Wall Street, parce que les Européens arrêtent d'acheter le titre Total Energy alors que les Américains continuent, voilà, de l'acheter.
Et donc, okay, il va y avoir une pression de plus en plus forte, je pense, de voir des actionnaires pour avoir une cotation à Wall Street où les valorisations sont bien plus fortes.
L'ESG risque d'asphyxier, en tout cas limiter l'attrait des marchés européens et au profit une nouvelle fois de Wall Street parce que les Américains sont moins stricts en matière de ESG justement.
En tout cas, c'est vrai qu'on va se couper de certains compartiments qui, pour moi, sont quand même essentiels. Hein. Bon, on parle de Total, mais on pourrait parler aussi du secteur de la défense, ou des sociétés comme Thales ou Dassault Aviation, quand même, ont toute leur place, hein, quand on voit la performance, en tout cas, du secteur de la défense depuis le début de l'année. Et est-ce que finalement, la défense nationale, c'est pas un critère aussi qui doit rentrer dans l'ESG, voilà, il faudra qu'on...
Mais vous n'aimez pas l'ESG, on a compris.
si, mais en tout cas, voilà, ça pose question. Et c'est difficile de se couper de ces sociétés qui surperforment largement les marchés depuis le début de l'année.
Effectivement, oui. C'est une thématique dont on a beaucoup parlé, bien sûr, Total Energy, qui pourrait faire de Wall Street sa première place de cotation, figurez-vous. Bon, on va suivre tout ça très très près. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Julien Kistrebert, Taylor AM, T-A-I-L-O-R-A-M. Je dis ça parce que comme vous n'êtes pas resté très longtemps parce que j'étais en retard, j'essaie de me rattraper en donnant l'orthographe de vos sociétés, comme ça j'ai bonne conscience. Merci beaucoup Julien d'être venu, merci beaucoup. La lettre de la bourse, bon ça je pense que tout le monde sait l'écrire. Bruno Kus, KUS en l'occurrence. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée.